Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 46 à 49. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà une histoire que nous avons lue, relue, entendue, réentendue certainement. Nous sommes... Là, je fais appel à votre imagination. Nous sommes près du lac de Tibériade, pas très loin de Capharnaüm. Et Jésus s'adresse à ses disciples et aussi à une foule. En fait, Jésus termine son enseignement sur le fameux sermon sur la montagne par la parabole que nous venons de lire. D'ailleurs, en Matthieu 7, cette même parabole est aussi rapportée, mais avec quelques petites nuances. Dans cette parabole, Jésus nous donne ici une vérité pratique. Il nous parle de deux maisons. D'après ce que nous venons de lire, les deux maisons paraissent identiques. Elles sont semblables. Elles le sont quant au plan, quant à la main-d'œuvre et aux travaux. Et puis, de l'aspect extérieur, rien ne fait de différence. Mais voilà que quelque chose s'est produit et qui a révélé la différence. Toutes les deux ont subi une épreuve identique, la tempête, l'inondation, torrent de boue, vent violent, puis une maison est restée debout et l'autre s'est écroulée. Pourquoi ? Pourquoi une maison est demeurée inébranlable et l'autre pas ? En regardant de près le récit, nous pouvons dire pourquoi l'une des maisons est restée debout et pourquoi l'autre est tombée. Alors nous constatons que la différence se trouve dans les fondations. L'une était construite sur du sable et l'autre sur du roc. La première n'avait pas de fondation et la deuxième en avait. Si nous voulons demeurer debout, si notre foi ne doit pas être ébranlée, nous devons veiller à nos fondations. En examinant ce passage, nous comprenons très bien ce que Dieu veut nous dire. Voici ce qu'il enseigne concernant le genre de fondation qui permet à une maison de demeurer debout dans la tempête. Alors, bien sûr, c'est nous qui sommes cette maison. Mieux encore, c'est notre vie. Il y a trois conditions que nous devons remplir dans nos vies, non pas deux, mais trois. Et nous serons capables de demeurer debout que si nous les assurons toutes les trois. Les voici. Jésus dit d'abord « Quiconque vient à moi », puis « Qui entend mes paroles » et enfin « Les met en pratique ». Premièrement, Jésus dit « Quiconque vient à moi ». Voici ce qu'il veut dire. Si nous voulons rester debout dans l'épreuve, il doit y avoir entre Dieu et nous un réel rapprochement, une communion parfaite. En disant cela, je parle d'une relation personnelle. Il ne doit pas y avoir seulement le consentement de notre intelligence à une vérité entendue et comprise, mais aussi une venue vers Jésus, qui est lui-même la vérité. Autrement dit, Nous devons nous approcher de lui comme d'une personne et non pas seulement venir à ce qu'il nous a dit. Il est évident que l'obéissance à cette invitation va entraîner différentes conséquences. Par exemple, en Luc 14, versets 25 à 27, nous lisons « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Puis le verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Nous pouvons être choqués par les paroles de Jésus. Et j'ajouterai que si quelqu'un est choqué par cela, eh bien, c'est peut-être tant mieux. Imaginez les gens qui ont entendu ces paroles à l'époque. Mais Jésus était honnête avec les foules. Et il continue à l'être aussi aujourd'hui encore avec chacun de nous. Beaucoup de personnes le suivaient et nous pensons qu'elles étaient de véritables disciples. En fait, ce n'était pas pour décevoir la foule, ce n'était pas non plus pour qu'elle ne le suive plus. Ce passage a étonné et choqué même beaucoup de gens, je vous le répète. Mais voici sa pensée. Si quelqu'un désire me suivre, il ne doit pas mettre son père avant moi, ni sa femme, ni ses enfants, ni même sa propre vie. Venir à Jésus, c'est donc ne pas permettre à notre père, à notre mère, à notre épouse, à nos enfants de se mettre entre nous et notre Sauveur. S'il nous demande même notre vie, nous devons lui obéir. Lorsque j'écoutais le témoignage de nos amis Nathan et Loïs, quand ils ont entendu l'appel pour la mission, ils n'ont pas regardé à leur propre vie. Et j'imagine que cela n'a pas été facile. Et je sais de quoi je parle quand je dis cela. Donc ils n'ont pas regardé à leur propre vie, à leurs propres intérêts. Ils ont répondu, ils ont dit, oui, Seigneur, nous voici pour te servir. Sans se préoccuper de l'opinion de ceux-mêmes qui sont les plus proches. Et si vous avez un appel de Dieu, vous devrez aller de l'avant. Et les risques ne devront pas vous arrêter. Parce qu'il y en aura des risques. Mais à un moment donné, il faut arrêter de calculer. Mais il faut seulement écouter ce qui résonne dans notre cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, pour demeurer debout, nous ne devons pas seulement venir à la vérité, mais à Jésus-Christ, la vérité, par une rencontre personnelle avec lui. Un certain nombre de croyants ont fait naufrage parce que leur fondation était insuffisante. Et Jésus a bien précisé ce que cela coûte de le suivre. Tout. Tout. Voyons le point suivant. Ceux et qui entend mes paroles. En Luc 8, 15, c'est la parabole du semeur. Et nous lisons, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Une partie de notre fondement de chrétien consiste en une connaissance de la vérité. Dieu nous a donné une intelligence pour nous en servir. Et il est essentiel que nous comprenions les vérités importantes. Si nous voulons un fondement solide, il nous faut conserver la vérité entendue. Hébreux 2, verset 1 dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Ce passage, nous pouvons très bien nous l'appliquer. Nous devons prêter attention aux vérités entendues afin que nous ne laissions pas entraîner un jour loin d'elles. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est tellement facile de se laisser influencer, de se laisser entraîner ici ou là. Il nous est, par exemple, possible de tenir quelque chose dans notre main. Par exemple, vous avez les clés de votre maison dans votre main. Et puis, je me promène place de Jaude, je m'intéresse aux vitrines, je regarde à droite et à gauche, je peux devenir négligent et laisser ainsi tomber les clés. Je poursuis ma promenade, puis je rentre à la maison et je cherche mes clés partout. Mais elles sont quelque part place de Jaude, alors que moi je suis là devant la porte de ma maison. Je les ai perdues. Nous pouvons devenir tellement négligents à l'égard des enseignements reçus que par étourderie, nous les laissons tomber de notre mémoire. Il faut que nous gardions la vérité jusqu'à ce qu'elle soit enracinée dans nos cœurs et que nous ne puissions plus la perdre. Nous aurons alors une fondation doctrinale solide dans notre cœur et dans notre esprit. Relisons dans Luc 6, versets 46 à 49, c'est-à-dire ce que nous avons lu au début et qui n'est pas dans Matthieu. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis ? Mais celui ou celle qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Ce n'est pas suffisant d'avoir entendu la vérité. Il faut qu'il y ait dans notre vie une application de cette vérité. Il suffit pas de dire à Jésus « Seigneur ». Seigneur veut dire d'abord « maître », c'est-à-dire qu'il a de l'autorité sur nous. En un mot, Jésus veut dire « Pourquoi m'appelez-vous le souverain alors que vous ne faites pas ce que je vous commande ?» Si nous voulons demeurer debout dans les épreuves de la vie, et il y en a des épreuves dans la vie, il ne faut pas croire que vous y échapperez. Quoique je ne le souhaite pas, mais ce sera inévitable. Et quand cela arrive, il faut que notre maison, que notre vie, soit basé sur le roc qui est Jésus. Il ne veut pas être seulement notre sauveur, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui sauve, mais il veut aussi être notre Seigneur. Une question au fait, est-ce qu'il est votre sauveur? J'espère que vous pouvez répondre oui. Mais est-il aussi votre Seigneur? Est-il celui auquel vous obéissez, celui dont vous reconnaissez l'autorité? Mes amis, c'est important d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Je le répète aujourd'hui plus que jamais, si nous voulons rester debout au jour de l'épreuve, il faut un fondement dans nos vies. Il consiste dans une réelle compréhension de la vérité, dans notre soumission et notre obéissance à la Seigneurie de Christ. Si ce n'est pas le cas pour nos vies, il faut que nous creusions plus profondément, que nous construisions les fondations de peur que la tempête et le torrent faisant rage, notre maison ne puisse tenir debout. Si les fondations existent, les vents alors peuvent souffler, les torrents peuvent déferler sur elles, la maison demeurera debout parce qu'elle est fondée sur le rocher. Et quel est ce rocher? Une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Une connaissance de la vérité. Une soumission à sa Seigneurie, alors nous serons capables de tenir ferme, quoi qu'il arrive. Alors, à ce stade, nous pouvons nous interroger. Qu'est-ce qui compte vraiment? Sur quoi choisissons-nous de bâtir notre vie? Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », dit Jésus. Jésus est sévère à l'égard de ceux qui se contentent d'invoquer le nom de Dieu. Il laisse entendre clairement que ce qui compte, ce n'est pas seulement de prier ou de prononcer le nom de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de porter la croix guenotte ou une croix tout court. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de chanter les cantiques le dimanche. Il s'agit avant tout de faire la volonté de Dieu. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut d'abord se mettre à l'écoute. Un long enseignement de Jésus précède la parabole des deux maisons, qui s'étale sur deux chapitres, 5 à 7, où nous lisons Par exemple, ne jugez pas les autres, cherchez et vous trouverez, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, aimez vos ennemis, etc., etc. Bref, c'est tout un programme. N'est-ce pas enthousiasmant ? Oui ? Amen ! Gloire à Dieu pour le programme qui est devant nous. En fait, il nous tend cette feuille-là et puis on n'a plus qu'à signer en bas. Hein. Ne faut-il pas... Alors là, il ne faut pas de panique, il faut rester calme. Ne faut-il pas une vie tout entière pour en tirer les conséquences concrètes pour sa vie ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela prend du temps. Même moi qui a déjà des cheveux blancs, je ne suis pas arrivé au bout. Hein. J'en suis encore loin. Hein. Luc 6, verset 47, je relis. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. » Il est semblable à un homme ou une femme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Cette démarche de creuser profondément avant de construire nous parle de l'importance de nous interroger, de réfléchir et de vérifier s'il y a cohérence entre notre vie et notre foi, si nous bâtissons du durable sur du solide. Dans la parabole, l'homme dont la maison reste debout a compris cela parce que pour la bâtir sur le roc, il lui faudra du temps, de l'énergie, c'est-à-dire creuser, charrier des pierres, creuser le sol, user de patience et de persévérance. Tandis qu'à l'opposé, l'autre bâtisseur semble vouloir s'économiser. Vite fait, bien fait, il dresse sa maison sur le sable. Il nous ressemble peut-être un peu, non ? Allez, vite fait, bien fait. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans ce monde où tout doit aller très vite, où les choses sont superficielles, pour ne pas dire virtuelles. À l'opposé, voilà, cet homme, il s'économise, faire le moins d'efforts possible. C'est un homme de notre temps, celui de la rapidité, de l'immédiateté. La question qui se pose à chacun de nous est la suivante. Mais en fait, qu'est-ce que la foi ? Est-ce un ensemble de choses à faire ou une relation de confiance en Dieu ? Si la foi est cette confiance profonde en Dieu, ce n'est pas pour protéger notre vie, mais bel et bien pour la transformer. Ma réflexion ne serait pas complète si j'omettais d'y ajouter un aspect de notre témoignage. Si nous voulons être des témoins dans ce monde, être des ambassadeurs comme nous l'avons entendu, il doit y avoir, comme je le disais, cohérence entre notre foi et notre vie. Et c'est cette cohérence qui donne un fondement solide à notre crédibilité. Ce que nous vivons crie plus fort que ce que nous disons. Jésus a toujours vécu ce qu'il disait. Et c'est ce qui explique les derniers mots du passage de Matthieu 7, 28. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Dans le monde incertain, où nous vivons tous aujourd'hui, anxiogènes, criblés de doutes, avec un esprit de peur qui gagne tout le monde entier. Est-ce que cela change quelque chose ou non d'être habité par la foi ? Jésus propose un chemin de vie pas forcément simple. C'est même un chemin de vie qui est souvent à contre-courant de ce qu'on peut entendre dans les discours de notre société. Alors, pour conclure, nous avons quelque chose à croire. Tout simplement, croyez que si vous bâtissez sur les fondations de la parole de Dieu, vous resterez debout. Ayez un regard sur lui et mettez votre confiance en lui. Il est capable de finir l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie. Vous ne bâtissez pas tout seul. C'est Dieu qui a posé les fondations et c'est Dieu qui accomplira le projet du bâtiment de votre vie. Et puis, quelque chose à faire, comme je l'ai déjà dit, la promesse que nous avons est conditionnelle. Mettons en pratique l'enseignement que nous avons entendu et que nous entendons. Quand nous sortons de l'Église, n'oublions pas ce que nous avons entendu. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche. Nous ne sommes pas en train de jouer là, frères et sœurs. Ce que nous faisons avec la parole de Dieu est un sujet qui a une portée éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Et si vous êtes encore en train de creuser, creusez encore, jusqu'à ce que vous atteigniez le roc. Que le Seigneur vous bénisse.